Alors, on va commencer notre huitième leçon dans notre série « La sanctification pratique et l'assurance du chrétien ». J'aime beaucoup le sermon de ce soir et celui de la semaine prochaine, parce que ça traite d'un sujet qui est important pour nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans votre vie chrétienne, en connaissant des chrétiens autour de vous. Il y a des chrétiens qui sont vraiment sûrs de leur salut. D'autres, on dirait qu'ils sont toujours en train de se demander « Coudonc, ma marche chrétienne est tellement boiteuse, est-ce que je suis sauvé, est-ce que je ne suis pas sauvé? » On voit des gens, des fois, qui sont branlants. Et à quelque part, ça a, la doctrine de l'assurance du chrétien a un lien direct avec notre degré de sanctification. Alors, la plupart des gens qui sont très fondés dans les Écritures et qui sont très obéissants à ce que la Bible enseigne sur la sanctification sont en général des personnes qui ont plus d'assurance que ceux qui ont un degré de sanctification qui est faible. En tout cas, on va regarder ça. C'est une série. Ce soir, je dis la leçon 8, mais dans le fond, la leçon 8 est trop longue. Je ne peux pas la donner toute ce soir parce qu'elle a comme 17 pages. Alors, je vais essayer de vous en donner 8 pages ce soir. Alors, ça va faire la leçon 8 et la leçon 9, mais ça va être, les deux leçons vont être sur le sujet de l'assurance du chrétien. L'assurance de notre salut, autrement dit, comment on peut être sûr qu'on est sauvé? C'est ça qu'on va regarder. Je voudrais qu'on regarde un verset pour regarder, ceux qui ont lu la Bible, bon, on peut le faire. Regardez comment Paul, qui était rendu sur la fin de sa vie, il déclare des choses, et c'est intéressant de voir comment Paul regarde cela. 2 Timothée, chapitre 4, des versets 6 à 8. Alors, on voit que c'est très personnel, il dit, « Car pour moi, je vais être immolé, et le temps de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Je n'avais jamais remarqué ça à un moment donné, puis l'auteur que je me sers, il fait les observations suivantes sur ces trois versets-là que je trouve vraiment géniales. Il dit, dans les trois versets, on voit l'apôtre Paul envisager sa vie dans trois directions. Premièrement, il regarde par en bas, la tombe. Verset 6. Verset 7, il regarde l'ensemble de son ministère. On va regarder ça en détail un peu. Dans le fond, c'est juste de voir les trois directions. Alors, il regarde la tombe. Il sait qu'il est sur le bord d'y aller. Après ça, il regarde vers le passé. Autrement dit, il regarde de quelle façon j'ai agi avec le Seigneur, avec ton Église, depuis que je suis sauvé. Et dans le verset 8, il regarde vers le futur. Parce que le futur, c'est le jour du grand jugement par Dieu. Alors, quand on regarde les trois versets avec cette optique-là, je trouve ça très intéressant. Il regarde vers la tombe, il sait qu'il est sur le bord. Il regarde vers son ministère, puis il n'a pas peur de dire « j'ai achevé la course, j'ai... » Alors, il regarde vers le bas, la tombe, et il ne ressent aucune peur. Parce que dans les Écritures, on dit que la terreur de l'homme, c'est la mort. Alors, si tu arrives devant la terreur de l'homme, puis tu n'as pas peur. À quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas dans les autres hommes. Alors, pour une remarque pareille sortir de la bouche d'un fils d'Adam comme nous, c'est vraiment spécial. Il dit, « Car pour moi, je vais être immolé, le temps de mon départ approche. » Probablement que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il recevait l'information que sa vie achevait. Alors, l'idée de la tombe, en général, provoque toujours de la terreur chez l'être humain, en général. On ne peut pas nier ça. Voici que Paul l'affronte avec calme, sérénité et sans peur. Maintenant, il regarde vers le passé, son ministère. Il le voit comme un soldat. On voit qu'il y a trois rôles dans le verset 7. Il dit, comme un soldat, « J'ai combattu le bon combat. » Il a combattu quoi? Ses ennemis, le monde, la chair, sa propre chair, et le diable. Parce que dans sa vie, lui, il en a eu des combats, bien plus que nous autres, on peut en avoir dans toute notre vie. Il le voit aussi comme un athlète de la course. Il dit, « J'ai achevé la course. » Alors, bien entendu, dans cette course-là, C'était pas une course qui se faisait sans effort et il n'a pas été découragé devant la longueur de l'épreuve. Il est tout près de la victoire finale. Et il se voit aussi comme un économe ou un intendant de Dieu. Autrement dit, il dit, ce que tu m'as donné, je ne l'ai pas gaspillé, je m'en suis servi, je l'ai fait profiter. En gros, c'est ça qu'il dit. Et la troisième chose, il regarde vers le futur, le jour du grand jugement. Parce qu'il dit qu'il est sûr de recevoir la récompense du Seigneur. Alors, il a beaucoup d'assurance et il s'exprime sans aucune hésitation. Il sait qu'il va recevoir la couronne de justice du juste juge, le Seigneur lui-même. Sa récompense sera bien sûr personnelle, il parle, mais il dit, mais aussi à tous ceux qui ont aimé son avènement. C'est qui ça? Tous les chrétiens de tous les temps, nous autres y compris. Alors nous aussi, on va avoir la même assurance si on mène une vie un petit peu qui ressemble à la sienne. Le pasteur Ryle, qui est un anglican, mais tous ses écrits sont reconnus par la majorité. Tous ceux qui connaissent le Ryle le reconnaissent comme étant un top dans à peu près tous les sujets sur lesquels il a prêché. Un écrivain chrétien de toute première classe. Alors, il dit que le sujet de l'assurance du chrétien est un sujet difficile et qu'il est facile de parler hâtivement et de façon non scripturaire de cette doctrine. Voici, il dit, la route entre la vérité et l'erreur est particulièrement étroite ici, en parlant du sujet de l'assurance du chrétien. Il y a eu des églises qui ont annoncé aux gens, si tu as dit que tu croyais au Seigneur Jésus, tu es sauvé, puis en tenant très peu compte du type de vie qu'il mène, ça, c'est de la fausse assurance. Et l'autre, il ne faut pas que tu ailles trop loin dans l'autre extrémité non plus. Comme il dit, gardez, c'est une route étroite entre la vérité et l'erreur sur la doctrine de l'assurance du chrétien. Alors, quand on regarde ce sujet-là, il faut regarder ça avec quatre angles différents. Il faut regarder quatre choses différentes. Ce soir, on va probablement avoir le temps d'en examiner juste deux. La première, c'est de se rendre compte que cette doctrine-là est profondément ancrée dans toutes les Écritures. Elle est vraie et elle est scripturaire. Tous les chrétiens se devraient de réaliser le lien étroit qu'il y a entre l'assurance du chrétien de son salut et son degré de sanctification. Si tu t'en rends pas compte, puis que tu es toujours en train de douter de ton salut, il y a une raison à ça. La raison, c'est ton degré de sanctification. Alors, elle est un don du Saint-Esprit. L'assurance de ton salut, c'est un don du Saint-Esprit, mais qui se doit d'être recherché et visé par tout véritable croyant. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là? Elle enseigne que le chrétien peut arriver à avoir une solide assurance de son salut. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, depuis que je suis chrétien, depuis 119, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai discuté avec toutes sortes de chrétiens et ça m'est revenu souvent dans mes conversations. Des fois, des gens, moi, des fois, je me demande si je suis sauvé. Quand tu te demandes si tu es sauvé, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans ta vie. Parce que normalement, si tu as bien compris la différence qu'il y a entre la justification et la sanctification et que ta marche chrétienne correspond à ce que les Écritures demandent, ton assurance du salut devrait toujours s'en aller en croissant et non pas en décroissant. Si tu rencontres un chrétien qui fait 20 ans qu'il est chrétien puis il se demande encore s'il est sauvé, ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Il peut l'être, mais accepter qu'il ne profite pas des cadeaux que le Seigneur lui a donnés, mais qu'il n'utilise pas. À l'époque que... Je me surveille. À l'époque qu'il a écrit ça, il y avait... C'était quand même au 19, fin du 19, des années, fin des années 1900. Il y avait un cardinal catholique qui s'appelait Bellarmine, que lui, il prêchait à cette époque-là en Angleterre que la doctrine de l'assurance du salut, c'est l'erreur des hérétiques. Puis pour lui, les hérétiques, c'est les protestants. Alors, le Concile de Trente, Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le Concile de Trente, 1545 à 1560 quelque, ça s'est réparti sur. Entre 1545 et 1565, ça donne une période de 20 ans, mais ça s'est fait par petite période de 2 ans. 1545 à 1547, ils ont fait un petit bout. Après ça, ils ont fait un petit bout quelques années plus tard. En tout cas, en 4 sessions de 2 ans chacune, l'Église catholique a organisé ce qu'on appelait la contre-réforme. Autrement dit, la réforme en Europe avait un grand succès. Et les églises catholiques se vidaient, et la manière de réagir de l'Église catholique, ça a été d'organiser ce concile-là, concile qu'on appelle de Trente. C'était une ville en Italie. Et là, ils ont pris toutes les doctrines que les protestants enseignaient, et ils ont dit tout ça, là, ils ont tout contredit ça, une derrière de l'autre. Et c'est quand même bizarre parce que le pape Jean-Paul II, il ne fait pas longtemps de ça, là, avait déclaré publiquement que toutes les décisions qui avaient été prises au Concile de Trente s'appliquaient encore aujourd'hui. Et une, je pourrais vous la montrer, le Concile de Trente, toutes les décisions qui étaient prises là-dessus, puis leurs affirmations et leurs contradictions de toutes les affirmations scripturaires protestantes, ils ont été toutes prises, ils ont toutes contredites. Et ça existe encore, et le pape Jean-Paul II, il n'y a pas longtemps, il a dit que tout ça tient encore, là. Alors, quelque part, quand quelqu'un lit ça dit, une que je me souviens en particulier, un article qui dit que si tu dis que tu es sauvé et que tu es sûr de ton salut, tu es anathème. Ça veut dire que tu es maudit, selon eux. Et ça, c'est une, mais une centaine. Alors, le Concile de Trente enseignait ça que la principale erreur des protestants, l'hérésie des protestants, c'était l'assurance de leur salut. Autrement dit, tu dis, moi je suis sauvé. Il n'y a pas un catholique que je connais qui dit avec certitude, qui est capable de dire enfin, je suis sauvé, je sais pourquoi. Mais là, on ne peut pas le savoir tout de suite, on va le savoir juste quand on va être rendu au ciel. Mais c'est pas de même, ça marche, c'est pas ça que les Écritures enseignent. En tout cas, on va regarder des innombrables affirmations des Saintes Écritures qui démontrent qu'un croyant peut avoir l'assurance de son salut. Prends Job, par exemple. Au chapitre 19, les versets 25 et 26, il dit, pour moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'à la fin, il se lèvera sur la terre, et qu'après cette peau qui se détruit et hors de ma chair, je verrai Dieu. Ça, c'est un Ancien Testament, c'est vieux, ça fait longtemps. Tu prends le psaume 23. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Ésaïe 26, verset 3, tu gardes au cœur ferme une paix assurée parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 32, verset 17, la justice produira la paix et le fruit de la justice sera le repos et la sûreté pour toujours. Et moi, un de ceux que je trouve les plus forts, c'est Romains 8, versets 38 et 39. Comment quelqu'un pourrait écrire une pareille phrase s'il n'est pas sûr de son salut? Il dit, car je suis, Paul parle, car je suis assuré que ni la mort, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, là, il parle des démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-tu de l'assurance ou c'est pas de l'assurance? 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 et 6. Nous savons en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les lieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est point faite de main d'homme. Verset 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance et que nous savons que pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur. 2 Timothée 1, verset 12, c'est pour cela aussi que je souffre ces choses, car je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé que par sa puissance, il gardera mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Colossiens 2, versets 2 et 3, afin que leur cœur soit consolé et lié étroitement ensemble dans la charité pour être enrichi d'une parfaite intelligence pour connaître le mystère de Dieu le Père et de Christ en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Hébreux 10, 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. 2 Pierre, chapitre 1, versets 10 et 11. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Vocation, ça, c'est l'appel. L'appel qu'on a eu de Dieu, l'appel efficace. Là. À affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Quelqu'un qui se doute de son salut, il est en train de broncher. Mais lui, il dit que si tu fais ça, tu ne broncheras jamais. C'est un passage très intéressant à lire. 2 Pierre, chapitre 1. Lisez ça, relisez ça, relisez ça. Demandez le Saint-Esprit, il vous éclaire. Et ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. 1 Jean, chapitre 3, versets 14 et 15. Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean, chapitre 5, versets 13 et 19. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez, pas que vous aurez, que vous avez. Donc, ça implique que tu l'as maintenant. Que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Alors, on peut affirmer avec assurance, et comme je vous ai dit quand j'ai préparé cette leçon-là, J.C. Ryle, là, je vous en ai nommé quoi, une douzaine de versets? Mais lui, il n'en nomme pas 12, il en nomme à peu près 40, 50. Il en a. Autrement dit, il est en train de te démontrer. Je ne suis pas en train d'essayer de te rentrer dans la tête une doctrine qui n'est pas vraie, qui n'est pas scripturaire, qui n'est pas vraiment ancrée dans les Écritures. Il t'en donne, tiens, plus que tu es capable de. Et là, quelqu'un qui nie la vérité après avoir tout ça, ça veut dire là, quelque part, il y a un problème très sérieux. Alors, on a parlé de Job, on a parlé de Pierre, on a parlé de Paul, on a parlé de Jean. Et tous ces versets-là nous enseignent qu'il est parfaitement compatible d'avoir à la fois une profonde humilité et une profonde assurance de notre salut. Parce que souvent, les catholiques vont dire « Vous êtes prétentieux, pas à peu près, vous autres, de dire que vous avez le salut. » Et Paul n'était pas prétentieux quand il disait « Je sais ce que j'ai fait, puis voici, j'ai combattu le bon combat. » Il était à la fois humble, on sait que Paul il se considérait comme le dernier des saints, mais qui était aussi à la fois sûr de qui, en qui avait cru. Alors on se doit de se rappeler que le croyant qui expérimente l'assurance de son salut ne doit se baser aucunement sur son œuvre, mais exclusivement et uniquement sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que quand on va regarder un petit peu plus en profondeur, quand on va aller dans la confession de foi 1689, on va aller plus en profondeur dans toutes ces choses-là, avec des tableaux, on va regarder ça vraiment en profondeur. On ne peut pas lâcher la 1689 tant qu'on ne l'a pas compris. Quand on l'a compris, après ça, il reste une autre étape, l'appliquer. Parce que tu as bien beau savoir quelque chose dans ta tête, mais il faut que ça passe dans tes pieds, puis dans tes mains, puis dans ta vie, puis dans tes paroles, puis dans tout. Le deuxième point qu'on va regarder... Si un croyant peut avoir la foi qui sauve sans connaître l'assurance de son salut. C'est-tu assez triste, ça? Parce que le Seigneur nous a donné les moyens pour qu'on puisse avoir l'assurance de notre salut, mais une personne qui a reçu le salut et qui n'a pas l'assurance, c'est triste. Parce que ça le prive de choses auxquelles il a droit. Alors, une personne peut avoir la foi qui sauve en Jésus-Christ et ne pas jouir de l'assurance de son salut. Un auteur ancien fait la comparaison suivante. Une lettre peut avoir été écrite, mais non scellée. Ainsi en est-il de la grâce qui est écrite dans le cœur, mais que, sans le Saint-Esprit, n'est apposé son sceau de l'assurance sur celui-ci. Un enfant peut être né et être possesseur d'une grande fortune, sans qu'il en soit conscient et ne l'utilise. Ainsi, un chrétien peut avoir reçu le salut, mais ne pas jouir de ses privilèges de son espérance, de son héritage. Sans aucun doute, un homme doit avoir la foi dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ pour être sauvé. Un homme doit sentir la pesanteur de ses péchés, de sa culpabilité devant Dieu et de sa perdition. Il doit absolument venir à Christ pour obtenir le pardon, le salut de son âme et la vie éternelle. Tout doit reposer sur Christ et sur lui seulement. Le Seigneur nous assure dans Jean 6, 37, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Romains chapitre 10, versets 9 à 11. Elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car on croit du cœur pour obtenir la justice et l'on fait confession de la bouche pour le salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il y a une chose intéressante dans le verset 9, ça dit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur. » Le Seigneur, ça implique que c'est lui qui commande, c'est lui qui domine, c'est lui qui a tous les droits sur nous. Le reconnaître, c'est reconnaître que quelqu'un a des droits sur nous, c'est obéir. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps, peut-être je vais en faire un bout. La foi, l'auteur dit que ça peut être comparé à une plante. Il y a une racine, puis il y a une fleur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un verset qui parle plus de la racine, puis après, on va regarder un verset qui parle plus de la fleur. Autrement dit, la racine, c'est la base de notre foi, tandis que la fleur, c'est l'épanouissement, c'est le côté visible. On va regarder Marc 5, versets 25 à 34, qui parle plus de racine. Alors, une femme malade d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et qui avait dépensé tout son bien sans avoir reçu aucun soulagement, mais qui était plutôt allé en empirant, ayant entendu parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. » Et au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus, connaissant lui-même la vertu qui était sortie de lui, se tourna dans la foule en disant, « Qui a touché mon vêtement? » Et ses disciples lui dirent, « Tu vois que la foule te presse et tu dis, qui m'a touché? » Et il regardait tout autour pour découvrir celle qui avait fait cela. Alors la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui avait été fait en sa personne, vint et se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie, va-t'en en paix et sois délivrée de ta maladie. » Alors on a vraiment la racine. La fleur, maintenant, dans Acte 7, versets 54 à 56. Entendant ces paroles, ils étaient transportés de rage en leur cœur et ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais, remplis du Saint-Esprit et les yeux attachés au ciel, il vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les yeux ouverts. » Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, la fleur de sa foi. Il était à la fin de sa vie et Dieu permettait qu'il voie Jésus debout et c'était quelque chose d'extraordinaire. Je pourrais vous en donner toute une série comme cela, mais on va essayer de couper court un peu. Je vais vous laisser les feuilles. Il y a plusieurs autres comparaisons de versets où on parle plutôt de la foi comme racine, où on parle plutôt d'autres qui parlent plutôt de la foi comme une fleur. L'assurance de son salut, c'est la santé, la force, la puissance, la vigueur, l'activité, l'énergie, la virilité et la beauté. Il n'est pas question ici d'être sauvé ou de ne pas être sauvé, mais plutôt de privilège ou de non-privilège. Ce n'est pas une question de paix ou de pas de paix, mais plutôt une question de grande paix ou de petite paix. Voyez-vous, l'assurance de ton salut te donne une grande paix. L'assurance de ton salut te donne d'avoir plus de privilèges que celui qui ne suit pas. La personne qui a reçu la foi, bien entendu, est bénie. Elle est en sécurité, elle est lavée, elle est justifiée. elle est hors de portée de la puissance de l'enfer. Satan, avec toute sa malice, ne pourra la retirer de la main de Dieu. Mais la personne qui a l'assurance est doublement bénie. Elle a tous les privilèges de la foi, plus ceux de l'assurance. Elle voit plus loin, elle sent plus les choses spirituelles, elle connaît davantage Dieu, elle jouit davantage de paix et de sérénité et de jours multipliés. Deutéronome 11, verset 18 à 21. Mettez donc mes paroles que voici dans votre cœur et dans votre âme. Liez-les comme un signe sur votre main, qu'elles soient comme des frontaux entre vos yeux. Et enseignez-les à vos enfants. Et en parlant, quand tu te tiens dans ta maison, quand tu marches par le chemin, quand tu te couches et quand tu te lèves, tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur les portes, afin que vos jours et les jours de vos enfants sur le sol que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner soient multipliés comme les jours des cieux et de la terre. Le troisième point, je vais juste l'effleurer, on ne rentrera pas dedans, ça va être la semaine prochaine. L'assurance de notre salut se doit d'être désirée ardemment. Ce n'est pas normal que si on ne l'a pas, qu'on ne la désire pas. Pasteur Rael est peiné de constater que l'assurance n'est pas assez désirée chez les chrétiens, ni même assez poursuivie. Plusieurs sont assis et endormis, leurs âmes sont en famine et sous-alimentées, alors que leur Seigneur leur dit, dans le Cantique 5, verset 1, « Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, mon épouse, j'ai cueilli ma myrrhe avec mes plantes aromatiques, j'ai mangé mes rayons de miel et mon miel, j'ai bu mon vin et mon lait, mes amis, mangez, buvez, faites bonne chère, mes bien-aimés. » Jean 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. » Alors, ce qu'on va faire la semaine prochaine, on va regarder les raisons pour lesquelles on se doit de désirer ardemment l'assurance de notre salut. Il y en a quatre. On va regarder ça. Il y a le quatrième point aussi. On va regarder ça. Moi, je trouve que c'est une leçon extrêmement importante. On a passé rapidement sur certains points, parce que dans le fond, ce sera une leçon qu'on pourrait facilement faire une heure et demie, juste sur cette leçon-là, si on la faisait au complet. Mais c'est une leçon importante. Parce que vous allez en rencontrer des chrétiens, certains que vous n'avez déjà rencontrés, ou vous avez peut-être même personnellement déjà venu à douter de votre salut. C'est vrai qu'on traverse des moments difficiles dans la vie. Qui n'a pas traversé? Et dans les moments difficiles, quand on vit des choses, parfois on est porté à dire, « Mais coudonc, la manière que je marche, moi, ça se pourrait-tu que je ne pourrais pas sauver? » Hey, que Paul, tu es chrétien, puis tu doutes que tu appartiens au Seigneur, puis tu doutes que tu vas aller vivre ta vie dans l'éternité avec lui. Comme on a dit tantôt, tu peux être chrétien, avoir reçu la foi qui sauve et ne pas avoir l'assurance de ton salut. Ça ne veut pas dire que si tu doutes de ton salut, que tu ne l'as pas. Mais ça veut dire que tu ne jouis pas de quelque chose que le Seigneur te donne la possibilité d'avoir. Alors quand on dit qu'on se devrait de désirer ça ardemment, y a-t-il quelque chose de plus fun pour un chrétien que de dire, « Moi, là, m'en va chez nous en soir, là. Paf, un accident. » Je sais que je m'en vais. Je ne me pose même pas de questions, je suis sûr. Mais plus tu vas être sanctifié, plus tu vas utiliser les moyens de grâce que le Seigneur te donne, plus tu vas être dans une attitude comme ça. Et quand un chrétien, souvent les vieux chrétiens qui atteignent des années, souvent ils ont... Je finis par ça. Je ne suis pas capable de vous la compter. C'est un chrétien que j'ai connu à Rouyn-Noranda. Il était chauffeur de taxi et... Il était un homme qui gagnait très bien sa vie. Et à un moment donné, il est tombé une maladie, comme un genre de dégénérescence du système musculaire. Je ne me souviens plus du nom, en tout cas. Il est rentré à l'hôpital. Et là, il s'est ramassé dans une place où tu finis tes jours là. Et tout le personnel qui l'ont connu, sur les deux dernières années de sa vie, ça a été long, là. Il a dégénéré, mais lentement. Là. Il vient un temps, tu n'es plus capable de manger, là, puis tu n'es plus capable de bouger. Là. Mais une sérénité. Là. Tout le monde qui l'a connu avait un témoignage. Ce gars-là, il y a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est quoi? Et il y avait un témoignage extraordinaire. Même malade, il était proche du Seigneur. Même souffrant, il était proche du Seigneur. Et on a dit, je n'étais pas là, mais j'ai su, que quand il est mort sereinement. Il est mort sereinement, pourquoi? Parce qu'il avait l'assurance de son salut. Quelqu'un qui n'a pas l'assurance de son salut, même s'il l'a, il va douter, puis là, il va paniquer, et ça va être les moments les plus pénibles de sa vie, ça, là. Tandis que lui, il a un super de bon témoignage. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça que je dis, mes amis, soyons sûrs de notre salut. Si nous ne l'avons pas, l'assurance, désirons-le, et regardons comment on peut l'obtenir. Parce qu'on peut l'obtenir. C'est scripturaire, tout cela. Alors, on va terminer là-dessus. Seigneur, merci encore une fois pour nous faire examiner cette doctrine de l'assurance de notre salut. C'est quelque chose de très important, mais Seigneur, nous devons réaliser le lien très étroit qu'il y a entre l'assurance de notre salut et notre degré de sanctification, et notre degré d'obéissance à ta parole, notre degré de proximité avec toi. Donne-nous de comprendre cela, notre Dieu, parce qu'on en a vraiment besoin. On veut vivre, on voudrait être comme cet homme dont on vient de parler, Dwayne Randa, qui a eu un témoignage extraordinaire dans les dernières années de sa vie. Je pense que c'est lorsqu'on est rendu un chrétien fort comme cela, que l'on fait connaître, on répand l'odeur de Christ autour de nous et que tout cela t'apporte honneur et gloire. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.